Bonjour Immacula, j'espère que vous allez bien. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Bonjour Gérard, bonjour Denise.
Bonjour Immacula.
Baisser les volumes. Voilà. Bonjour Marie-Huguette. Alors, mardi 28 septembre 2021. Merci Gérard. Bonjour à mon père, à ma mère. Merci Marie-Huguette. Je n'en doute aucunement, Gérard. Ça doit être très très beau, effectivement. Le festival des couleurs est commencé dans votre région. Chez nous, c'est encore assez vert. Les arbres ont à peine commencé à changer de couleur, mais c'est encore pas mal vert. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi. Donc assurément la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia, on les salue bien chaleureusement. En fait, Gérard, ici, ça va nous prendre quelques journées un peu plus fraîches. Bien que ce matin, quand je suis sorti vers 5 heures, il faisait simplement 8 degrés à l'extérieur. Mais ça respire bien dehors. Quand c'est frais comme ça, je trouve qu'on respire mieux. Et aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. Pas de pluie en prévision. En fait, pour quelques jours encore. Je pense que jusqu'à vendredi, il fait très beau. On continue bien entendu notre étude sur 1 Corinthiens 2, du verset 1 à 5. Buenos días, hermana Flori. Y buenos días también al hermano Luis. Donc aujourd'hui, la belle-mère, c'est raisin, fraise, on dirait une banane. Ananas, avocat, tomate, pêche, melon d'eau. Merci pour le panier le panier de victuailles. Et shalom. Bonjour Guy. Que Dieu te bénisse. Bonjour Maria. Que Dieu te bénisse. Content de t'avoir avec nous ce matin. Tu salues de notre part la sœur Rosita. Bien entendu. Bonjour à Herbert aussi. Vous avez encore un bon 6 ou 7 minutes pour aller vous chercher un petit café. Je suis en train de terminer le mien. On vous rappelle les inscriptions aussi pour l'assemblée de dimanche en présentiel. Donc pour ce faire, vous nous écrivez à l'adresse courriel de l'église ou vous nous appelez au secrétariat au numéro de l'église toujours. Je vous rappelle aussi la bonne nouvelle qui vous a été annoncée dimanche, au-delà de la prédication. Et quand je parle de bonne nouvelle, je ne parle pas de la parole de Dieu à ce moment-là, mais simplement vous dire que, pas cette semaine, mais à partir du mercredi suivant, donc pas demain, mais dans 8 jours, on recommence les cultes du mercredi soir, en présentiel. Ça sera toujours disponible sur Internet, mais on va accueillir des gens dans la salle le mercredi soir à partir de la semaine prochaine. Et pour ce faire, pas besoin d'inscription. Par contre, il y aura toujours les normes de distanciation, le port du masque et puis la prise de température. Mais voilà, donc pas d'inscription pour le mercredi, à partir de mercredi prochain, donc pas demain, l'autre après. Donc on espère que vous serez nombreux à retourner aux bonnes habitudes de nos cultes en présentiel du mercredi soir. Ça sera bien entendu toujours de 19h à 20h. Et ceux qui veulent arriver plus tôt pour prier, la salle est toujours ouverte un peu à l'avance. Bonjour Sylvia. God bless you. Greetings to Pastor David. Bonjour Thérèse. Sois bénie. J'ai vu ton nom apparaître, mais je me rappelle plus si je t'avais déjà dit bonjour. Il y a des jours comme ça où après 2 minutes après avoir fait quelque chose, on se demande si on a bel et bien fait la chose. Donc, faute d'être convaincu, puisque je parlais sur autre chose, alors aussi bien te saluer une deuxième fois si c'est le cas. Bonjour Myriam. Bonjour Donald. J'espère que vous allez bien dans la belle région d'Ottawa-Gatineau. J'ai fait hier ce que je n'avais pas fait depuis minimum 2 ans. Bonjour, sœur Susanna. Y saludos también al hermano. En fait, hier, j'ai fermé mon cellulaire après le temps de bénédiction matinale. Et puis, je n'ai pas réouvert le cellulaire d'ici ce matin. En fait, je n'ai regardez aucun message d'ici ce matin. Il y en avait quelques-uns malgré tout. Voilà, j'ai pris la journée pour méditer, pas pour préparer quoi que ce soit, simplement pour méditer, lire, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. En fait, c'est même pas lire, j'ai écouté un livre en format audio. C'est en anglais et puis c'est plus rapide pour moi de l'écouter que de le lire. Lorsque je lis un texte en anglais, bien que je le comprends, ça me prend 4 fois le temps que ça me prendrait en français. Donc là, j'ai décidé de me le procurer en version audio. Et puis, en une journée, j'ai passé la moitié du livre. Donc, j'ai bien apprécié ma journée. Une première journée comme ça en presque 2 ans. Donc, j'en ai profité pour tondre le gazon pendant que j'écoutais le livre. Aller chercher Daphné, la ramener, toujours en train d'écouter le livre. Donc, c'était très agréable. Ça a fait du bien. Je pense que je vais devoir me céduler des journées comme ça plus régulièrement. Vous allez me dire que je devrais le faire à tous les lundis, mais c'est pas toujours facile à faire. Bonjour à Consuelo et à Jean. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. And if Pastor David is there, I could suggest the title in English is A Hero Maker. Great book. Great book. It was suggested by to me by Brother Wes Mills from ACOP. C'est un livre en anglais, Thérèse, qui s'appelle Hero Maker, sur le leadership au niveau ecclésial, une autre façon de concevoir le leadership intéressante. Donc ça me faisait juste du bien au-delà de la thématique du livre, de décrocher un peu. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Alors on va prier et après quoi on lit le texte pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle journée qui débute, l'occasion pour chacun d'entre nous de méditer ta parole, d'être nourri par elle, d'être mis au défi par elle et surtout d'être transformé par ce que nous allons partager ce matin. Nous te demandons d'ouvrir notre entendement. Nous te demandons, Seigneur, d'empêcher quelque agent que ce soit de venir voler la semence que nous partageons ce matin, de venir l'altérer, l'aliéner, en fait que cette semence trouve un terrain qui lui est propice pour s'enraciner, pour croître et pour porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu es présent parmi nous, même si nous sommes tous à distance, nous sommes tous répartis un peu partout dans bien des endroits, mais nous savons, Seigneur, que tu es présent parmi nous, que tu nous conduis, que tu nous diriges. Et que ton esprit, Seigneur, ouvre notre entendement pour recevoir la parole du jour. Alors qu'en toute chose, que ton nom soit élevé, nous t'avons prié dans ce précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà, on ouvre nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 2, du verset 1 à 5. Hier, on a pris le temps pour étudier le verset 1. Aujourd'hui, on y va avec... Il semble qu'il y a des problèmes avec la connexion Internet. Je m'en excuse, je ne sais pas comment changer les choses, mais on s'en excuse si ça chope un peu. On espère que ça ne bloquera pas. Donc, 1 Corinthiens 2, du verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole, je relis pour vous tout d'abord le verset 2, puisque c'est essentiellement sur celui-là qu'on va se pencher ce matin, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Alors tout au long de cette semaine, on parle de différents pièges qui guette le héros. Et je rappelle que héros ici, ce n'est pas celui qui fait des actions grandioses, qui fait des actes héroïques, mais on parle du héros ici comme le porte-voix, le messager, le proclamateur public de certains faits. Toujours cette allusion à ce qui se passait dans le Moyen-Âge, dans la Renaissance, où le roi, le duc, le comte, le leader d'un secteur, voire même le maire du village, envoyait des crieurs publics dans la place importante de la ville ou de la région, et après un son de trompette qui rassemblait un auditoire, on commençait la proclamation, on disait « Oyez, oyez, gentes dames et gentilhommes », et puis là on donnait les prescriptions que le leader en question, donc le roi, la plupart du temps avait déposé ou avait mis en vigueur pour l'ensemble de la populace. Donc on parle des pièges qui guettent le héros par rapport à son enseignement de la parole, par rapport au témoignage que l'on rend. Et hier, on a vu trois points importants. On a vu qu'il est parfois un danger ou un piège dans lequel on tombe régulièrement, qui est de parler autre chose que de son expérience personnelle avec Jésus. Paul disait hier qu'il avait annoncé le témoignage de Dieu. Donc, être témoin ou partager le témoignage, c'est donc ce que j'ai vécu, ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, plutôt que tout un tas d'autres choses. Il disait aussi qu'il n'est pas venu avec une supériorité du langage, et ici c'était le terme logos, donc il n'est pas venu avec cette attitude un peu parfois hautaine qu'on peut avoir lorsqu'on a cette impression d'avoir une théologie plus riche, mieux fondée que les autres. C'est pas un débat théologique lorsqu'on porte le témoignage, donc ne pas tomber de vouloir convaincre théologiquement les gens, puisque de toute manière on ne peut s'approcher de Dieu qu'avec la foi, et que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Et la foi n'est pas une question de conception intellectuelle, n'est pas une question de conception d'idées ou de points au niveau de la connaissance, mais vraiment une question de mon âme versus Dieu. Voici ce que j'ai expérimenté et voici ce que je partage. Donc de ne pas venir avec une supériorité de langage et en contrepartie ne pas venir non plus avec une supériorité de sagesse. Parfois dans cet état de débat dans lequel on tombe quand on témoigne, on essaie d'arriver avec le point A, B, C, D, E, et on est tout simplement pour être capable de contrecarrer tous les arguments des autres. Il y a une question d'humilité, il y a une question de sincérité, il y a aussi une question d'inspiration du moment qui nous est importante lorsque nous témoignons de Christ. Alors aujourd'hui, car je n'ai pas eu la pensée autre que de savoir parmi vous Christ et Christ crucifié. Alors, le tout premier point, on l'a abordé à plusieurs reprises à travers les dernières semaines, on l'a abordé aussi hier, on l'a abordé dimanche, le fait que notre théologie, notre partage, notre enseignement reste centré sur Christ et Christ crucifié. le centre de notre enseignement, le centre de notre partage, le centre de notre témoignage doit toujours revenir à Christ, Christ crucifié. Pourquoi? Et ça, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer encore là à plusieurs reprises. Parce que parfois, on va parler de Christ comme le médecin par excellence, mais présenter le médecin par excellence, c'est présenter celui qui est capable de guérir. Mais ce n'est pas parce que j'ai présenté celui qui est capable de guérir que j'ai nécessairement présenté le sauveur. Donc parfois on rentre dans des présentations de toutes les autres choses que Dieu est en omettant de parler de Christ, Christ crucifié, Christ mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. C'est la base de notre foi. C'est ce qui nous différencie de toute autre croyance, de toute autre foi, de toute autre, entre guillemets, religion. Ce qui caractérise le chrétien, c'est le fait qu'il comprend la notion du péché, la notion de pécheur qui est sur tout être humain, et la notion d'avoir besoin d'un sauveur, d'un moyen de salut, et ce sauveur et ce moyen de salut restent Christ, Christ mort et Christ ressuscité. Lorsque je parle de la mort de Jésus, je suis obligé d'annoncer aussi pourquoi Jésus a dû mourir, parce que nous sommes tous pécheurs. Donc nous amenons notre auditeur, et nous amenons celui à qui nous témoignons, dans le point capital de comprendre son état dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'on parle du salut, on parle d'une tare issue chez la race humaine à cause du péché initial, donc une condamnation qui repose sur chacun d'entre nous et qui ne peut être levée qu'à travers la reconnaissance que Jésus est le Seigneur, est le Sauveur et que nous avons besoin de ce sauveur et que nous nous prémunissons, si ça se dit, on se prémunit de ce salut offert par Christ mort et ressuscité pour nous. Donc on doit se rappeler de rester centré, de revenir en tout temps vers ce message de Christ, Christ mort et Christ ressuscité. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement l'impression que ce message a été répandu, galvaudé, a été partagé à droite et à gauche, qu'il en perd sa puissance. Paul va dire dans un autre passage que les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent de la sagesse. Donc, les Juifs veulent des explosions, puis les Grecs veulent être défiés dans leur entendement. Mais Paul, malgré les attentes des Juifs en quête de miracles et des Grecs en quête de philosophie et de sagesse, lui revient malgré tout à Christ mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que ça reste le message le plus important que nous puissions partager. Ça reste la nouvelle, la bonne nouvelle, la plus importante qui puisse être partager. Si nous ne partageons pas la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, nous passons à côté de notre devoir de chrétien. Alors, Paul rappelait à l'église de Corinthe que ce qui lui importait à lui, c'était effectivement de partager ce message de Christ et Christ crucifié. Comme autre piège ce matin, Paul va dire « Je n'ai pas eu d'autre pensée parmi vous de savoir cette chose, soit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ça veut donc dire que parfois, on sort de ce contexte, on perd le focus sur le plan d'annoncer Christ crucifié et on s'en va dans des détails qui sont possiblement vrais, qui sont assurément, qui ne sont pas des mensonges, qui ne sont pas des fabulations, mais qui ne sont pas le centre du message qui sauve. Comme je disais tout à l'heure, Jésus qui guérit ne veut pas dire que j'ai parlé de Jésus qui sauve et de ce Jésus qui sauve dont on a tellement besoin. Je dis parfois, un médecin peut guérir Alors parler de Jésus, oui, c'est fantastique comme quoi il guérit, mais l'importance, ce qui distingue Jésus du meilleur des médecins, c'est que oui, il est supérieur au meilleur des médecins dans sa capacité à guérir, mais c'est surtout que Jésus, lui, est capable de sauver, alors que le médecin ne peut pas sauver. Lorsqu'on parle de l'Évangile comme étant une source qui nous permet de savoir comment mieux gérer notre argent ou comment aller ouvrir des portes pour devenir riche, vous savez que plusieurs ont fait carrière avec cette théologie-là. La problématique, c'est qu'un banquier et un conseiller financier peut aussi nous dire comment gérer notre argent et devenir riche ou devenir mieux nanti avec les conseils de ce sage conseiller financier. Christ, lui, annonce le salut. Le banquier n'annoncera pas le salut. Donc nous devons revenir à cette doctrine de base, doctrine basique, comme on dirait en France, sur l'enseignement de Christ, Christ crucifié. Ça veut donc dire de ne pas errer bibliquement. Très souvent, ce qui se passe, c'est que on essaie de trouver des choses croustillantes et qui nous émoustillent. Et là, on veut trouver combien ils sont. Ils sont-ils un? Ils sont-ils deux? Ils sont-ils trois? Et là, on vient à débattre là-dessus. Puis après ça, on essaie de trouver le grec, l'hébreu, l'araméen, de ceci, de cela, pour essayer de convaincre. Et voilà, à un moment donné, il y a un point théologique qui nous allume et on s'en va là-dedans comme si c'était la plus grande et la plus merveilleuse des révélations. Régulièrement, je vous avouerai, durant l'année, je vais recevoir un courriel, je vais recevoir un téléphone, un message SMS de quelqu'un qui veut m'annoncer sa dernière découverte dans la parole de Dieu, la dernière doctrine qu'il a découverte, et cette doctrine devient la doctrine primordiale. Et l'Église ne va pas bien parce qu'on ne comprend pas cette doctrine, ou l'Église va mal parce qu'on n'a pas découvert cette doctrine. Et bizarrement, c'est celui qui m'appelle et qui veut que je l'invite à prêcher, qui en est le détenteur. Dieu m'a révélé, et puis maintenant, je suis le seul et unique détenteur de cette vérité-là. Il m'est déjà arrivé de voyager quelque part et de me retrouver au sein de plusieurs leaders qui voulaient en fait profiter de l'occasion pour m'endoctriner sur un point particulier. Et je les écoutais parler, je les écoutais parler, et je leur ai dit à un moment donné, mais croyez-vous vraiment que vous êtes les seuls détenteurs de cette vérité-là? Cette vérité est biblique. Donc Dieu aurait décidé que depuis 2000 ans, ça serait simplement vous qui auriez la révélation de cette vérité-là et que personne autour de la planète n'aurait cette vérité. J'ai commencé à leur citer des noms et des noms et des noms de personnes qui avaient écrit des livres, de personnes qui avaient prêché sur le sujet, dont eux se prétendaient être les seuls récipiendaires. Alors, la difficulté ou le piège qui nous guette régulièrement, c'est de tomber dans ce que j'appelle l'errance biblique. Donc, aller dans des sujets croustillants, dans des sujets qui nous émoustillent, au lieu de revenir et mettre l'emphase sur le message de Christ. À l'église de Corinthe, il se passait un tas de choses. Lorsque Paul va dire ce qui m'intéresse, c'est Christ crucifié, c'était pour ramener tous les esprits, pour ramener toutes les pensées, pour ramener chacun des croyants vers la base même de l'Évangile, Christ mort, Christ ressuscité, Christ crucifié, Christ ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc éviter l'errance biblique et de surcroît à cela, éviter le piège de la nouveauté. C'est sûr que nous sommes dans un processus, chacun au niveau auquel on peut être, dans un processus constant, permanent d'apprentissage. Et il est très important de rester des étudiants de la parole de Dieu. Alors, qui dit étudiant dit, par conséquent, dans un processus d'apprentissage, donc dans un processus d'acquisition de nouvelles notions. Mais la problématique, c'est que certains veulent se défaire des notions de base, veulent rejeter du revers de la main les notions de base et les notions plus classiques, telles que la mort, l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus, pour trouver tout simplement, voilà la nouvelle mode, le nouveau point, la nouvelle théologie, la nouvelle facette de théologie qui est de mise. Et ça devient non plus Christ crucifié qui est à la base de notre message, mais ça devient ma dernière découverte. Pourquoi? Parce que je me suis emballé sur un thème. La problématique, c'est que ce thème-là, à un moment donné, va devenir récurrent. Ce thème-là, à un moment donné, va devenir usuel, normal. Tu vas voir faire le tour de la question. Et là, tu vas chercher une nouvelle nouveauté. Et cette nouvelle nouveauté, je sais que ça ne se dit pas, je sais que c'est redondant, mais je fais exprès. Cette nouvelle nouveauté va être ton nouveau cheval de bataille. Et là, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, ça va être strictement sur cette nouvelle notion. Puis celle-ci va devenir ennuyante, va devenir passée de date, et tu vas en chercher une autre. Revenons à l'essentiel. Il n'y a qu'un message qui sauve. C'est Christ. Christ crucifié pour le pécheur repentant. Il n'y a pas d'autre message qui sauve. Et lorsqu'on s'écarte de ce message, voici le danger qui nous guette. L'errance biblique et la quête de nouveautés qui sont très souvent des choses secondaires dans la théologie importante ou dans le message évangélique important qui est Christ mort et ressuscité pour le salut du pécheur. Dans le verset 3, la Bible nous dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Je répète, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Ça fait une suite logique par rapport aux deux ou trois un point qu'on vient de mentionner, notamment l'errance biblique et la quête de nouveautés ou l'exposition de cette dernière découverte qu'on a faite. Très souvent, lorsqu'on arrive dans ce genre de débat où quelqu'un se présente et puis nous lance une balle courbe pour savoir nous amener sur un sujet, très souvent, il y a une attitude qui vient avec. On prie que nous puissions tous aller avec des cœurs doux, avec une attitude paisible. Mais très souvent, on se rend compte que les débats théologiques deviennent tout simplement des débats d'idées et des débats assez acrimonieux. J'ai vu des échanges très régulièrement sur Facebook, que ce soit des échanges entre une foi et une autre. J'ai vu particulièrement des gens qui sont tombés sur la tête de musulmans, de gens avec la foi musulmane, et ils pensaient les gagner comme ça. Ils étaient en train de les démolir, de démolir leurs pensées, mais de façon virulente, de façon violente, et après ça, ils croient qu'ayant gagné leur débat, ils vont amener nécessairement cette personne-là vers le Seigneur. Mais le manque d'amour, le manque de douceur, le manque de tact dans l'approche fait en sorte que, au lieu de gagner ces gens vers Jésus, on les a plutôt rebutés du fait que on ne leur a montré aucun respect. Donc, dans notre approche, et parfois c'est entre chrétiens, on commence à échanger, voici, moi je suis partisan de ceci, moi je suis partisan de cela, on voit les grandes écoles théologiques qui s'affrontent, ceux qui sont de tels grands théologiens du 18e siècle, d'autres qui sont de tels grands théologiens du 17e siècle, et là ils se garochent des versets, ils se lancent des versets d'une façon peu douce, peu remplie d'amour, et d'une façon tout à fait belliqueuse. Dans nos comportements, voici ce que Paul va dire. « Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » La lecture sommaire ou de première phase de ce verset va nous interpeller pour nous dire, comme autre piège, d'éviter donc l'orgueil et l'arrogance. Quand nous témoignons avec un cœur rempli de compassion, avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de douceur, et non pas avec le cœur de celui qui est parfois hautain du fait qu'il serait le détenteur d'une vérité que son vis-à-vis n'a pas. Lorsqu'on se trouve devant quelqu'un qu'on sent comme orgueilleux, qu'on sent comme arrogant, la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, on va se rebiffer par rapport à ce que cette personne amène. Alors voilà pourquoi le message de l'Évangile ne peut pas être transmis sans l'amour, la douceur, la miséricorde, la compassion qui émanait même de Jésus lorsque lui-même a été accroché à la croix. C'est quand même tout à fait dichotomique de dire « on va présenter le message du Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que celui-ci meure à la croix pour que quiconque croirait soit sauvé », alors qu'on le présente avec de l'arrogance, avec un état de débatteur belliqueux, avec une attitude qui manque d'entre-gens, qui manque de compassion, et on veut parler d'un Dieu d'amour. Alors voilà pourquoi il est important que dans mon témoignage, que dans mon partage du message, que dans ma proclamation de l'Évangile, je le fasse avec beaucoup de douceur, sans orgueil, avec humilité et avec compassion. Rappelons-nous une chose, même si aujourd'hui tu es détenteur de la plus merveilleuse des nouvelles, cette nouvelle t'a été annoncée par grâce, tu as reçu cette nouvelle à cause de la grâce de Dieu, et aujourd'hui tu bénéficies du salut qu'annonçait cette nouvelle, toujours par la grâce, rien n'est ton mérite. Voilà pourquoi lorsque nous allons enseigner, nous allons prêcher, nous allons partager l'Évangile, cela doit se faire avec énormément d'humilité, sachant que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'être un crieur public pour Christ. Je ne mérite pas même d'avoir bénéficié du salut que je suis en train d'annoncer. Je ne le mériterai jamais. Je n'en suis le bénéficiaire tout simplement parce que Christ m'a aimé et qu'il m'a accordé sa grâce. Donc, évitez le piège de l'orgueil et de l'arrogance dans la façon dont nous prêchons. Par contre, il y a l'autre extrême. Paul ici va dire, j'étais moi-même dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et lorsqu'on va étudier ces termes, on va se rendre compte qu'il est effectivement, vraisemblablement, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Hier, je vous expliquais tout ce qui s'est passé pour que Paul arrive jusqu'à Corinthe, comment on les a malmenés à Thessalonique, et qu'ils ont dû fuir de nuit, comment on les a poursuivis jusqu'à Bérée, comment à Athènes on s'est mis à se moquer d'eux. Et là, ils arrivent à Corinthe, aucun appui, aucun soutien. Paul est de retour à la construction de tentes auprès d'Aquilas et Priscille, qui eux-mêmes ont été chassés aussi de Rome par la persécution qui s'y opère par l'empereur contre les Juifs. Alors Paul arrive dans l'exposition de son message dans la ville de Corinthe, avec effectivement de la faiblesse, de la crainte et un grand tremblement. Et je vous explique ces quatre termes. Faiblesse, c'est le terme asthénéia. Asthénéia, A-S-T-E-N-E-I-A, faiblesse, asthénéia, qui veut dire être en besoin de force, voire même qui veut dire être dans un état d'infirmité ou de maladie. Ça veut dire que Paul lui-même se sentait faible jusqu'à être infirme, comme s'il reconnaît qu'il lui manque quelque chose. Quand on parle de grande crainte, la crainte, c'est le terme phobos, P-H-O-B-O-S, P-H-O-B-O-S, qui nous parle de peur et de terreur. Grande polis, P-O-L-Y-S, donc grande crainte, polis phobos, polis qui veut dire divers, varié, multiple. Donc, Paul était non seulement faible comme un infirme, comme quelqu'un qui est malade, comme quelqu'un qui est en besoin de force. Il avait une grande crainte, une grande terreur, des terreurs qui étaient diverses, qui étaient variées, qui étaient multiples. Ce n'était pas juste une peur qui s'abattait sur lui, c'était plusieurs peurs et des peurs d'importance. Ce n'était pas simplement « Oh, je tremble un peu ». Non, je suis terrorisé. C'est comme ça que Paul dit qu'il se présente à Corinthe. Et enfin, on nous dit avec beaucoup de tremblement, avec grand tremblement, tremblement tromos, T-R-O-M-O-S, duquel on va soutirer le terme en français « trauma ». Donc, il arrive comme quelqu'un qui est en état traumatisé, donc avec anxiété, avec appréhension, avec une perte de confiance en ses moyens pour accomplir la tâche qui lui était requise. Paul ne s'est pas présenté à Corinthe en se pétant les bretelles puis en disant « ça va aller ». Paul est arrivé avec grand tremblement. Il a quand même fait son travail. Et c'est là où la leçon doit être importante pour nous. Peu de gens sont enclins à témoigner avec aisance au départ, avec une grande assurance au départ. La plupart d'entre nous, on commence avec timidité, avec gêne. Mais ce faisant, plus les choses passent, plus on vient à vaincre notre peur. Le danger et le piège seraient de se taire parce que nous avons peur. Au même titre où il y a quelques instants, on disait on doit éviter le piège de l'orgueil et de l'arrogance, en contrepartie, on doit éviter le piège de la peur. Il y a des gens qui disent « mais quand j'aurai plus d'assurance, à ce moment-là, je le ferai ». Si tu attends le jour d'avoir un peu plus d'assurance, probablement que le diable l'a compris et il va faire en sorte que à chaque fois que tu dois te mettre à parler, tu te mettes à trembler. J'expliquais un samedi soir à Rivière-des-Prairies que les premières minutes d'une prédication, je suis tout le temps en train de toucher ma tribune, tout le temps en train de toucher le lutrin. Pourquoi? Parce que je tremble à l'intérieur de moi. J'ai un manque d'assurance à chaque fois que je dois m'exprimer devant les gens en public. Alors, les 5 ou 6 premières minutes, je suis en train de parler un peu de différentes choses, tout simplement pour acclimater l'audience ou l'auditoire, pour m'acclimater à ce que je dois faire et faire en sorte que je sois capable de surpasser ma crainte, mes peurs, voire même la terreur qui parfois peut s'emparer de moi. Et c'est intéressant de voir Paul sous cet angle-là, parce que très régulièrement, on a tout simplement l'image de Paul qui est solide, qui n'a peur de rien, qui est frondeur jusqu'à un certain point, qui est rempli de courage et tout ça, et on pense qu'il n'a pas peur en partant. Le courage ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage veut dire que j'ai affronté mes peurs et que j'ai dépassé mes peurs. La personne qui n'a pas peur est une personne écervelée. La personne qui n'a pas peur, c'est une personne qui est téméraire. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur et qu'elle fait un peu n'importe quoi. Mais la personne qui est courageuse, c'est la personne qui a été confrontée à la peur et qui, malgré la peur, va continuer à avancer. Et c'est intéressant, sur un autre point, que Paul parle ainsi, parce que lorsqu'il va parler à Timothée, plus tard, il va écrire à Timothée en lui disant « Eh, regarde, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force et d'amour. » Et on a l'impression qu'en disant ceci à Timothée, Paul est en train de se présenter comme le grand costaud, le grand brave, le grand courageux, celui qui est inébranlable et qui enseigne le petit Timothée qui balbutie au premier mot, qui tremble en tout temps, lui disant « Regarde, là, laisse tomber ta timidité et avance comme un homme. » Paul parle à Timothée de dépasser sa timidité. Pourquoi? Parce que Paul s'est déjà présenté à Corinthe avec tremblement, grand tremblement, avec crainte et avec faiblesse. Alors, Paul était capable de dire à Timothée, « Regarde, fiston, c'est sûr que tu as peur. Je suis passé par là. Si tu regardes ma lettre que j'ai envoyée à Corinthe, je leur disais, je me suis présenté devant vous avec de la faiblesse, avec une grande crainte, avec de grands tremblements. Mais malgré tout, j'ai annoncé l'Évangile. Alors mon fils Timothée fait de même. Timothée pouvait regarder son père spirituel, Paul, et il savait que Paul, lorsqu'il lui disait « surpasse ta timidité », c'est que Paul lui-même avait été capable de ne pas être restreint par le piège de la peur, mais d'être capable de surmonter celle-ci pour annoncer l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? 5 points importants. Premièrement, ne pas oublier que le centre de notre témoignage, le centre de notre proclamation reste et demeure Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité pour le salut de l'humanité, le seul, l'unique agneau de Dieu par lequel nous puissions être sauvés. Deuxièmement, éviter le piège de l'errance biblique en essayant d'enseigner tout un tas de choses sans revenir à l'emphase particulière que Christ crucifié doit avoir dans notre message. Puis, éviter le piège de vouloir à tout prix prêcher quelque chose, annoncer quelque chose que personne d'autre n'a pu voir, n'a pu connaître, n'a pu expérimenter. Éviter le piège de chercher à tout prix la nouveauté. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sa parole est immuable d'éternité en éternité. Donc, ne cherchons pas la nouveauté que personne n'a jamais entendue. Ça n'existe pas. La Bible a déjà été révélée. La Bible nous a été donnée. Et cette parole, bien que pour nous puisse comporter différentes nouveautés, nous ne sommes pas en quête de cette nouveauté au détriment de la valeur fondamentale que l'on retrouve dans Christ mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Quatrième point, éviter le piège de l'orgueil et de l'arrogance. Quand nous prêchons, quand nous enseignons, quand nous partageons l'Évangile, quand nous témoignons, qu'on puisse faire preuve d'humilité, de douceur, de compassion et d'amour. Et enfin, éviter le piège de la peur, le piège de la terreur, qui régulièrement va tenter de nous faire tomber dans un mutisme, de nous taire et de nous empêcher de partager l'Évangile. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On va prier que Dieu bénisse cette parole. Merci Seigneur pour ce que tu nous as révélé. Merci Seigneur pour ce sur quoi tu nous as ramené à l'ordre. Merci Seigneur pour ces mises en garde que tu nous rappelles aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour moi-même, mais aussi, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, que cette parole puisse être arrosée par ton esprit, être recouverte de l'onction de ton esprit, et que rien ne puisse venir l'altérer, la voler, la détruire, mais qu'elle puisse s'enraciner en nous, croître et porter un fruit qui t'est agréable, un fruit rempli d'humilité, un fruit rempli de douceur, un fruit rempli de compassion, de grâce et d'amour, un fruit, Seigneur, qui nous amène à dépasser nos craintes, nos peurs, qui nous permet d'être courageux, d'affronter nos peurs et de passer outre nos peurs dans ce devoir, dans cette tâche, dans cette mission que tu nous as donnée de prêcher l'Évangile. Permets-nous, Seigneur, de remettre l'emphase sur l'importance du message de la croix où Christ est mort, Christ est venu porter les péchés de l'humanité, donc le message de la mort et de la résurrection de Christ comme seul message qui peut procurer le salut. Assurément, Seigneur, tu as permis qu'on entende ces paroles aujourd'hui pour que nous puissions dès maintenant les mettre en pratique. Alors je prie pour toutes les personnes que ma sœur va rencontrer aujourd'hui. Je prie pour toutes les personnes que mon frère va rencontrer aujourd'hui et pour ces occasions de proclamer ton Évangile qui seront données aux uns et aux autres. En toute chose, je bénis mes frères et mes sœurs. En toute chose, nous élevons ton nom, seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, le glorieux nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié dans ce précieux nom. Amen. Alors voilà, c'était ce qu'on avait pour ce matin. Je vais voir si je peux saluer quelques personnes. Je remonte un peu pour voir les dernières personnes que j'ai pu saluer. Je pense que les derniers que j'ai salués, c'était Babette et Andreas. Donc, on salue Denise de Laval, de l'église de Montagne. Bonjour ma sœur, content que vous soyez avec nous. Bonjour à Marie-Marthe. Si Marjolaine est avec toi, on la salue aussi. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Janine. Bonjour à Maggie. Bonjour à Ramon, à Evelyne. J'essaie de remonter un peu plus loin. Voilà. Mais je pense que c'est tout. Les autres, je vous ai salués en début de séance. Donc, on vous rappelle, on se retrouve demain, mercredi. Donc, deux rendez-vous demain. Demain matin pour la bénédiction matinale. Demain soir, 19h, pour l'étude biblique. Et comme on l'a annoncé dimanche, pas demain, mais le mercredi suivant, on va ouvrir les portes pour que les gens puissent se rassembler ici à l'église en présentiel aussi pour l'étude biblique. Donc, pas d'inscription, mais bien sûr, les normes sanitaires qui s'appliquent et qui sont de mise comme le dimanche matin. Voilà. Alors, c'est tout. Inscrivez-vous pour l'assemblée de dimanche en présentiel, soit par courriel ou par message vocal sur la boîte vocale de l'Église. Sur ce, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse.